Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour la dernière émission avant les vacances d'été, nous recevons Stéphanie Faure. Stéphanie Faure est la coordinatrice du réseau Sahel Désertification.
Oui, bonjour.
Et en même temps, tu es au...
CARI, au Centre d'Action et de Réalisation Internationale, qui est une petite association qui est basée à Viol-le-Fort, à 30 km au nord de Montpellier.
Bien. Alors le 17 juin, s'est tenue une journée mondiale de la lutte contre la désertification. Et ce même jour, il y avait une conférence.
Oui, en fait, on est en train de mettre en réseau quatre plateformes, dont trois plateformes sahéliennes, une plateforme au Burkina Faso, une au Niger et une au Mali, avec une plateforme française d'acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre la désertification, d'une manière générale dans le développement des zones arides. Et le 17 juin, pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la désertification, on a fait une conférence ouverte au public à Montpellier, en présence de nos partenaires du Sahel. L'idée, c'était vraiment de présenter le réseau, de présenter nos partenaires et de faire le lien avec la thématique qui était régénérer les sols en un lieu, régénérer la vie en tout lieu, faire le lien entre la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la préservation de la biodiversité. Voilà.
D'accord. Et actuellement, est-ce qu'on peut considérer que la désertification est un processus en extension?
Alors, la désertification, c'est un peu un faux ami dans le terme. On parle de dégradation des terres, c'est pas l'avancée des déserts, c'est vraiment un phénomène qui agit par tâche, et c'est selon le contexte environnemental, climatique, les grandes sécheresses, mais aussi selon l'utilisation des terres par les populations, que ce phénomène est plus ou moins fort. Et c'est vrai que ce phénomène est vraiment de plus en plus fort. Et dans des endroits comme au Sahel, où la population est les plus démunies au monde, c'est dans ces endroits-là où c'est le plus grave, en fait, pour les populations. Ça touche à peu près un cinquième de la population mondiale, ce phénomène de la dégradation des terres, la désertification. Voilà.
Qui se traduit donc par une malnutrition, une dénutrition.
Voilà. Donc les gens ne peuvent plus... vivre de leur production sur ces terres-là, et donc une malnutrition, une baisse de la sécurité alimentaire, parfois même, en fait, il faut relier d'une manière générale au contexte, donc il y a très peu d'eau aussi, donc le contexte de l'eau est très important, aller chercher toujours plus profond l'eau, et on le voit là dernièrement, là cette année, avec la crise alimentaire qu'il y a en ce moment au Niger et au Mali.
Mais la crise alimentaire que tu évoques, est-ce qu'elle n'est pas liée aussi à l'arrivée au niveau de la demande mondiale de ce qu'on appelle de façon bien propre des biocarburants?
Tout est plus ou moins lié. Après, dans certains endroits, c'est vrai que les terres sont, on appelle ça l'accaparement des terres. Les terres sont accaparées par des grandes multinationales ou qui ont la main basse sur ces terres. Après, il y a des endroits où les zones sont aussi désertiques quand même, mais les gens souhaitent aussi y vivre. Et l'idée de ce réseau, le réseau Sahel Désertification, c'est aussi leur permettre de pouvoir vivre là où ils le souhaitent.
Oui, donc d'éviter aussi cet exode, ces migrations vers des villes qui ne sont pas des villes, vers des on va dire des bidonvilles à la périphérie des grandes villes.
Tout à fait, tout à fait. C'est une des conséquences du phénomène de la désertification, l'immigration.
L'immigration dans des conditions, évidemment.
Qui sont parfois beaucoup vers les villes, mais aussi vers l'Europe.
Bien sûr. Oui, l'impossibilité de... Et est-ce que le réseau travaille en partenariat avec des associations locales, avec les pouvoirs locaux? Est-ce que il y a une remise en question aussi des politiques qui ont été menées par, entre autres, le Fonds monétaire international, qui a encouragé l'implantation de cultures de rente? au détriment des cultures vivrières, au détriment de la diversification des cultures qui permettaient, jusqu'à il y a une trentaine, quarantaine d'années, aux paysans, bien souvent, de subvenir à leur propre alimentation.
En fait, la base du réseau, c'est vraiment de faire le lien entre tous les acteurs qui sont impliqués dans le développement des zones arides. Donc c'est vraiment, par exemple, au Burkina Faso, voir qui travaille, que ce soit des agriculteurs, des organisations de base, des ONG, des scientifiques, les pouvoirs publics, les communes qui maintenant, il y a toute une politique de décentralisation dans ces pays-là, et d'essayer de faire le lien entre ces différents acteurs pour aller ensemble, faire ensemble plus loin. Donc ça va être aussi sur les politiques publiques. En effet, l'idée c'est aussi d'être critique, mais pas seulement critique, de construire ensemble. Donc de proposer des alternatives, de dire non, on n'est pas d'accord, mais on peut faire comme si parce qu'on connaît la réalité du terrain. Donc l'idée c'est vraiment donc de faire le lien avec les politiques publiques, donc de faire remonter cette logique d'ascenseur, en fait, refaire remonter la situation du terrain, mais aussi la faire redescendre via des financements aussi, ou via des lois qui vont permettre, une législation qui va permettre aux différents acteurs de mieux vivre sur leur terre, ou d'avoir en tout cas une meilleure condition de vie. Voilà.
Et est-ce que la greffe se fait entre les traditions, l'héritage qu'ont cet héritage culturel des paysans, et puis cet apport technologique d'étrangers.
Alors justement, la spécificité qu'on a au CARI, c'est qu'on travaille avec des partenaires locaux. Donc vraiment, c'est sur cette base, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait pendant la semaine du 17 juin, juste avant la conférence. L'idée, c'était de faire venir donc nos partenaires, Idrissa Zeba du Burkina Faso, du Spong du Burkina Faso, Soumaïla Sagara de la Fédération Sigdaïlen du Mali, Salifou Hassan Seni du Niger, pour ensemble construire le projet, un projet qu'on avait déjà construit bien avant, mais se remettre en question toutes les activités, voir qu'on soit bien d'accord sur comment les mettre en œuvre. Et après, c'est eux qui connaissent les acteurs, qui connaissent le contexte, qui mettent en œuvre les activités. Nous, on est là plutôt en termes de levier. De levier, parce que c'est vrai que quand une ONG française vient au Burkina Faso, par exemple, et qu'on est là pour une conférence, pour parler de ce phénomène, de la lutte contre la désertification, et surtout des actions que l'on peut faire pour le combattre, s'il y a un partenaire français, l'impact n'est pas le même que si des partenaires locaux, parfois même, ne sont pas en lien direct avec les institutions parce qu'ils ne les connaissent pas. Nous, on a vu bien avant, dans des conférences internationales, mettre en relation, par exemple, des gens du ministère de l'Agriculture ou du ministère de l'Environnement avec des ONG locales du terrain, parce qu'en fait, ils n'avaient pas ce lien-là, ils ne se connaissaient pas. Les gens sont souvent cantonnés dans leur bureau ou dans leur champ, et l'idée du réseau, c'est vraiment de les mettre en lien pour pouvoir être qu'ils soient maîtres de leur destin dans leur propre pays. Voilà.
Oui. Donc le respect que la coopération, bien souvent, la coopération telle qu'elle avait été conçue dans les années d'après indépendance, avait oublié.
Après, c'est vrai que bon, il y a différents types d'actions. Nous, c'est un choix qu'on a fait. C'est pas le plus facile, mais ça permet vraiment qu'aux acteurs de locaux d'aller plus loin. Donc, ça passe bien sûr par des formations, on appelle ça des actions de renforcement des capacités des acteurs locaux pour qu'ils comprennent comment fonctionnent les politiques, comment influencer sur le débat public, en fait. Mais c'est vrai qu'au niveau du Sahel, il y a déjà beaucoup d'organisations qui sont déjà bien structurées. Et il y en a, dans les différents pays sur lesquels on travaille, il y en a qui sont bien structurées. Et l'idée aussi, c'est de les faire en lien pour que chaque thématique, la lutte contre la désertification, d'une manière générale, c'est pas une thématique spécifique, c'est plutôt une thématique transversale où on peut parler des questions d'eau, des questions de foncier, des questions de lutte contre le changement climatique aussi, préservation de la biodiversité, crise alimentaire, tout ça est lié. Donc vraiment, c'est de faire le lien pour une politique publique qui aille dans un sens, en tout cas qui nous paraît cohérent. Voilà, je pense que c'est un peu ça l'idée. Voilà. Et au départ, nous, le CARI, on est dans le domaine de l'agroécologie, donc on a vraiment ce souci de préservation des terres et de transmission des savoirs locaux aussi, pour revenir au début de la question.
Donc agroécologie, ça sous-entend une défiance, une distance par rapport à des groupes, par exemple comme Monsanto, par rapport aux cultures avec OGM qui sont prétendument ou peut-être réellement adaptées à des conditions locales difficiles.
En fait, il y a un gros débat et peut-être aussi de gros mensonges sur la question. C'est vrai que l'agroécologie, on appelle ça l'agroécologie, mais on peut parler aussi d'agriculture biologique. C'est vraiment utiliser les matières végétales, le compost, la fertilité des sols avec des éléments naturels pour avoir une meilleure fertilité et donc un meilleur rendement. Il s'avère qu'au niveau des résultats, dans le long terme, parce que c'est sûr que si on met beaucoup d'engrais chimiques, peut-être qu'il y aura une bonne récolte, mais l'appauvrissement des sols est vraiment réel. Il y a des études qui le démontrent. Donc voilà, l'agroécologie, c'est aussi une vision à long terme. Et c'est vraiment préserver la terre aujourd'hui et demain, et encore plus loin, pour que les populations puissent vivre. On le voit en France aussi, hein, des gens qui pratiquent l'agroécologie ou l'agriculture biologique. On a passé par cette démarche-là, nous aussi, en France et dans les pays européens, à des agricultures chimiques. Mais l'idée, justement, c'est de pas faire les mêmes erreurs avec nos partenaires et de les avertir du désastre que l'on voit dans certains endroits.
À l'origine de ce mouvement, quelles sont les personnes? Tout à l'heure, en préparant l'émission, on évoquait un peu la grande figure de René Dumont.
En fait, c'est vrai que au départ, le CARIS est implanté à Viol-le-Fort, mais au départ, il y avait une association qui s'appelait le CIEPAD à Viol-le-Fort, qui faisait des formations en agroécologie, et il y avait donc beaucoup de gens qui du Sahel et de par le monde qui venaient se former à l'agroécologie. Au début des années 90, le CIEPAD s'est arrêté, et donc certains membres du CARI et du CIEPAD ont formé le CARI, et donc sur ces projets de terrain, cette matière, ce principe, ce fondement, l'agroécologie, on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait pas seulement s'axer sur des actions de terrain, mais qu'il fallait faire le lien avec une démarche plus institutionnelle. Et donc c'est en lien avec Rio de Janeiro en 92 et des conventions environnementales qui en sont sorties, la convention climat, la convention biodiversité, la convention sur la lutte contre la désertification. Nous, au CARI, la personne la plus expérimentée, c'est Patrice Burger, qui est directeur du CARI et qui était à Rio et qui a suivi donc tout ce cheminement. Bien sûr, on fait le lien avec d'autres références dans le domaine de l'agroécologie et dans le domaine du développement d'une manière générale.
Avec Via Campesina, vous avez des...
Pas directement, mais c'est vrai que dans nos réseaux internationaux, donc le RESAD, le réseau Sahel désertification dont on parle, fait partie du réseau international DryNet, et aussi dont est membre la FIPA, la Fédération internationale des producteurs agricoles. Donc c'est une fédération qui est vraiment représentée de par le monde, et il y a des acteurs qui font partie de ce réseau via Campesina. J'en ai rencontré un, par exemple, en 2006, lors d'une conférence des Nations Unies. On l'avait invité pour qu'il parle justement de ce projet-là, et c'était un projet au Nicaragua.
Donc à la fin de l'émission, tu pourras peut-être discuter avec Sébastien, qui s'occupe de la technique aujourd'hui, et puisque lui a fait de longs séjours au Mali.
D'accord.
Hein, donc, et on a dans la radio Tabalé qui est jumelée avec Divergence, il y a des. Je pense que ce type d'émission, cette émission d'aujourd'hui, c'est une émission qui pourra intéresser aussi les auditeurs du Mali et puis ceux de Montréal, que tu connais, va.
On va lancer en fait le RESAD, le réseau sur la désertification au Mali, au Burkina et au Niger. Et au Mali, c'est en septembre. Donc peut-être qu'on peut se donner rendez-vous en septembre. Et au Burkina et au Niger, ça sera en octobre. Donc on vous tiendra au courant.
Ça serait bien.
Oui, tout enfin, à fait, oui. Ouais. Mais c'est vrai que nous, le Mali, on est aussi proche le Cari parce qu'on a une action là-bas dans l'Adrar des Iforas. Donc c'est vraiment au nord Mali, à la frontière algérienne, dans un village qui s'appelle Tinzawatan. Et donc, en 2006 et 2007, on a fait un almanach sur ce village, sur comment les gens vivent là-bas, sur les actions de lutte contre la désertification, les actions dans les maraîchages, les actions en brousse. Et c'était avec une dessinatrice de Montpellier. Et donc, il y a eu tout un travail aussi d'animation, art plastique, avec des enfants là-bas, scolarisés, mais aussi non scolarisés, en brousse. Certains n'avaient jamais touché au crayon de bois. Donc c'était vraiment aussi, dans nos actions de solidarité internationale, il n'y a pas seulement que des actions techniques, du travail. Oui. C'est vraiment un échange, une certaine sensibilité. On s'enrichit les uns des autres. Voilà.
Très intéressant. On va lancer Salif Keïta.
Na brandura e calmaria, nós já morta bem descansado. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós já morta bem descansado. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta.
Eterni amore, vedi perfie, e nele arabi.
E demais.
Je t'aime, amor, e te diverti, e nele arabilá, too much.
Boi, tudo minha fé, na paz. papa daru kuye mobili kodi ofanye ah ilene le muluku moso inde buru ye kodayini sanka noi kana wakanto ene le muluku moso yo sakene moso
je t'aime mi amore veni vesti ene le arabi
Não tá bem amar sem me de confiança. Não era mais risão. Olhar de nós criança tá torna brilhar de inocência. E na mente se gritaiada temporal talvez tá mais nada.
Je t'aime, mi amor, é me divertie. E nele a rabila, tu mate.
Boinha desafio. Et demain,
je t'aime, mi amor, et te divertie. E nele a la villa, tu marches.
Boy, tout bien fait, n'a pas.
Je t'aime, mi amor, et te divertie. E nele a la villa, tu marches.
Chérie, ne bifle.
Si loin, si proche, Stéphanie Faure, donc on revient à ce problème de la lutte contre la désertification. Alors, tu me disais que qu'en 2006, tu étais à Cuba et que Salif Keïta avait participé à...
Mais en fait, on était là avec le groupe de travail désertification qui est une des plateformes de ce réseau, Sahel Désertification. On était là avec nos partenaires du Sud, nos acteurs locaux, pour une convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Donc là, c'est les pays hein, qui se retrouvent. C'est un peu comme ce qui s'est passé à Copenhague en décembre dernier, sauf que là, c'est pour la lutte contre la désertification, mais c'est très en lien, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, il y avait Salif Keïta qui était là pour un événement culturel en fait de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, était venu faire quelques morceaux pour les différents pays partis, et donc c'était un clin d'œil assez sympa d'avoir de l'écouter maintenant
ouais.
Voilà.
Yeah.
Donc c'était en 2006 avec des partenaires, il y avait des partenaires du Mali, du Burkina Faso aussi qui étaient présents, qui avaient présenté dans l'enceinte des Nations Unies leur projet de terrain. C'est un juste retour des choses aussi. On parle de mécanismes, on parle d'institutions, on se dit est-ce qu'il faut faire ce rapport, est-ce qu'il faut avoir cette taille, est-ce qu'il faut... Et là-dedans, il y a des ONG qui sont là et qui disent attention, on est là, voilà ce qui se passe sur le terrain, voilà ce qu'on fait aussi et comment on peut aller plus loin pour nous soutenir. Voilà, c'est vraiment notre rôle aussi, faire le lien entre... ce qu'on fait sur le terrain et être fort de propositions, donc avoir une connaissance de ce qui se passe au niveau des Nations Unies, au niveau des différents ministères dans les pays. Et donc ça se passe aussi dans les conventions des Nations Unies.
Alors on va profiter de... Tu parlais du Burkinabé. On va saluer des partenaires. Je pense à Irénée Doumboué que tu connais peut-être.
Oui, je le connais aussi en fait. Bon, il connaît le CARI de longue date.
Ah, hein. Oui.
Et il voulait venir justement le 17 juin, mais il n'était pas disponible. Il est aussi, il fait partie en fait de notre réseau français, le groupe de travail désertification. Il est membre d'une ONG qui s'appelle Silva. Eux, ils sont basés à Montpellier et ils sont plus sur la foresterie.
La forêt, oui.
Voilà. Et puis bon, on le connaît, on l'a déjà fait intervenir aussi au CARI en tant que expert un peu au niveau du Burkina.
Ouais, et puis Madeleine Guyot aussi, qui nous a permis d'être aujourd'hui ensemble, puisqu'elle était indisponible. Et...
Oui, Madeleine, en fait, qui était là lors de la conférence du 7 juin, qui représente à la fois le Centre de documentation Tiers-Monde et la Maison des Tiers-Monde. D'ailleurs, je pense qu'en lien avec Madeleine, et puis peut-être aussi avec Eau Vive, qui est une ONG internationale, et donc il y a un groupe local ici à Montpellier, on va participer à la quinzaine des Tiers-Monde, donc là c'est en novembre.
Voilà, au mois de novembre.
C'est un lien avec l'indépendance, le cinquantenaire des indépendances.
Oui.
Ils ont fait un colloque là dernièrement,
oui.
C'était en juin, début
oui,
juin.
Oui, avec Gabi Nkuka, qui
voilà.
Était... vraiment réussi à une très belle organisation de ces journées.
Et donc un peu dans cette continuité, on va faire certainement une conférence, on va en parler demain soir, il y a une réunion, on va faire une conférence sur ces actions de lutte contre la désertification et le combat que l'on peut mener en termes d'indépendance et d'autonomie aussi des populations.
Alors peut-être avant de terminer... Il y a une journée porte ouverte qui peut intéresser les auditeurs de Divergence.
Oui, c'est en fait chaque année, là, depuis l'an dernier, on fait une journée festive au CARI. Elle est à Viollant-Laval. Et cette année, c'est le dernier week-end de septembre, le 26 septembre, et à Viollant-Laval. Donc l'idée, c'est de venir nous retrouver et partager un moment ensemble sur ce que l'on fait et ce que l'on peut faire ensemble. Voilà.
Très bien, Stéphanie. On te remercie.
Ben merci à toi.
Et on remercie aussi Sébastien.
Merci Sébastien.
Et bonnes vacances à tous.
Merci.
Ce soir, c'est en direct, il est 18h30 à l'écoute du 93.9.
Bahia qui vive pra dizer como é que faz pra viver.